Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Rebienvenue à cette édition hors série du deuxième service sur les ondes de CFAC 88.3 et de Chiz 94.3 à Québec, vos radios universitaires préférées. Bergeon qui vous présente la revue de l'année du deuxième service de 2024, puisque oui, déjà la fin de l'année, on est à faire un récapitulatif de ce qui s'est passé et on espère que le premier ministre ne démissionne pas d'ici à la diffusion de cette émission-là, parce que ça ne sera pas abordé si jamais Justin décidait de lever les pattes avant Noël. Donc c'est les risques de faire des enregistrements d'avance. Il y a des spéciaux des fêtes qui sont déjà compromis dans plusieurs choses, notamment avec le départ de Christophe Freeland dans les derniers jours qui ont porté un clou fatal dans le cercueil de Justin, disons ça comme ça. Mettons qu'en voulant poignarder Christophe, elle s'est bien vengée, elle a poignardé Justin elle aussi en quittant, en fracassant la porte de son bureau lorsqu'elle a quitté. Mais bon, ça, on en a parlé à l'émission de la semaine dernière, de tous les tenants et aboutissants de cette démission-là. Cette semaine, on parlera surtout de ce qui s'est passé en 2024 et, comme à l'habitude, ce qui a été le plus recherché au Canada dans cette année qui vient de se terminer, ou qui est sur le point de se terminer, on devrait plutôt dire. Et on regardera aussi les événements marquants qui se sont déroulés au Québec dans la dernière année. Donc, voici le menu pour cette émission de fin d'année. Comme je le dis, qu'on espère qu'il n'y a pas eu de cataclysme entre la semaine dernière et l'enregistrement de cette émission-là. Parce que on peut être très surpris, même si on est seulement à la mi-décembre et qu'il reste un peu moins de 10 jours à l'année. On débute avec le traditionnel palmarès de Google qui répertorie l'entièreté des recherches au Canada. Dans les années précédentes, on avait vraiment une section réservée au Québec, mais là, on a décidé d'y aller au plus simple et on n'a fait que la province. Donc, il n'y a pas de section francophone cette année, malheureusement. Et ça paraît, on a fait un truc un peu plus concis, un peu plus court. Je sens qu'on a fait le tour peut-être de ces palmarès-là de recherche que normalement, voilà, on le détaille, mais que cette année, ce n'est pas le cas. En tout cas, la section Québec n'existe pas au moment de faire la recherche. Par contre, comme à l'habitude, il y a 10 sujets qui ont retenu l'attention au Canada en 2024. Dans l'ordre, en 10e position, évidemment, la grève chez Post-Canada, qui a été parmi les sujets les plus recherchés. Peut-être avez-vous eu... dans mon cas, c'est pas si mal. Là. Ça a été quelques lettres. On s'attendait à ce que des boîtes... les boîtes à mal débordent, mais non, finalement, on a réussi à répertorier... ou en tout cas, à répartir, je devrais plutôt dire, le plus possible le tout. Le pont à Baltimore qui s'est effondré, c'était cet été quand c'est arrivé, le pont à Baltimore qui s'effondre? Bonne question. C'était le Key Bridge en mars, lorsqu'un convoyeur l'avait percuté de plein fouet et que ça avait été... la séparation définitive entre les deux rives du côté de Baltimore. La grève chez Air Canada qui a réussi à être évitée de justesse, mais ça n'a pas été facile non plus. La grève à la LCBO, donc la SAQ ontarienne, était en grève. Eux aussi, probablement que dans le répertoire québécois, s'il y en avait eu un, ça aurait été la SAQ. L'ouragan Milton, qui a fait des ravages. Ça, c'était cet été. Je suis pas mal certain que c'était pendant le mois d'octobre. Oui, l'été, tout à fait. Mois d'octobre, dis-je bien. Donc, l'ouragan Milton, quand il est apparu au Québec, mais c'est surtout l'île du Prince-Édouard, Terre-Neuve-Labrador, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, qui en ont eu les ressorts et qui ont été le plus touchés et qui ont fait le plus cette recherche. Les feux à Jasper, Colombie-Britannique, ainsi que l'élection de la Colombie-Britannique, qu'on se souviendra, qui n'a pas eu de résultat clair avant quasiment 10 jours, ou un peu plus de 10 jours, où c'était tellement serré dans certaines municipalités, dans certains comtés, qu'il a fallu attendre le dépouillement judiciaire pour pouvoir définir si vraiment le NPD du BC avait remporté l'élection. Donc, ça avait été particulièrement difficile. Bien, pas difficile à suivre, mais en plus d'avoir des résultats qui ont tardé, ça a été difficile de pouvoir déterminer ce gagnant-là. Les résultats qui se sont fait attendre 2 semaines de plus, que le NPD avait remporté de justesse majoritairement versus les conservateurs. Le nouveau Parti conservateur uni, entre guillemets, ou en tout cas le nouveau Parti démocrate, le nouveau Parti conservateur de la Colombie-Britannique, qui était aussi formé d'anciens membres du Parti Colombie-Britannique, du BC United, qui a été dissolu juste avant l'élection. La Copa América en troisième position, donc le soccer, comme d'habitude, fonctionne extrêmement bien. Les élections américaines, évidemment, on ne s'en sauve pas à la deuxième position. Et finalement, en première position, l'Euro 2024. Donc vraiment, le football reste quand même un sport quand même assez suivi parmi les gens d'un peu partout. Du côté divertissement, allons-y tout de suite. Donc, ce qui a été le plus recherché dans les catégories films, émissions de télévision et chansons. Pour les films, sans dessus-dessous, 2 trône à la première position. C'est le film le plus recherché au Canada pour le film de l'été, de l'automne, si on peut le dire ça comme ça. Saltburn. Film particulièrement étrange qui se trouve à la deuxième place des recherches. Dune Part 2 de Denis Villeneuve, la deuxième partie qui a été recherchée. Beetlejuice, la suite attendue par personne de Beetlejuice qui est finalement atterri dans les cinémas 30 ans plus tard. En cinquième place, It Ends With Us. Jamais plus le film avec c'est la femme de Ryan Reynolds, Blake Lively, qui apparemment a été désagréable sur le plateau tout le long du tournage, qui est un film sur la violence conjugale adapté d'un roman du même nom, It Ends With Us, qui a été parmi les 5 films les plus recherchés. Les 5 autres positions appartiennent aux Mendes Brothers, film sur Netflix. Très particulier, ça aussi, les frères qui ont assassiné leurs parents. Ils sont-tu jumeaux? En tout cas, ils sont très, très proches. Poor Things, qui avait gagné l'Oscar. C'est-tu celui-là? Où je me mélange avec un autre film de Pauvre Créature. Non, Emma Stone, c'est exactement celui-là, qui était en nomination aux Oscars en 7e position. Deadpool et Wolverine, incontournable, qui se retrouve en 8e place. Madame Web de Sony Pictures, de l'univers étendu de Spider-Man, qui était en 9e position, mais c'est certainement pas pour les bonnes raisons. C'est les recherchés. Film exécrablement mauvais. Et Terrifier 3, qui est le film qui complète le palmarès. Film d'horreur particulièrement glauque qui était dans ce top 10. Du côté des émissions de télé, Baby Reindeer en première position, la série Fallout sur Amazon en 2e, Le couple parfait, Perfect Couple en 3e, Shogun en 4e, Fool Me Once en 5, Nobody Wants This, Body Problem, House of Dragons, du Trône de Fer, Game of Thrones, The Gentleman et Quiet on Set. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de palmarès québécois cette année, donc c'est vraiment des séries américaines, anglaises, sur les plateformes de streaming, parce que le Canada anglais, ben, écoute, les produits américains, malheureusement. Et sinon, ben, pour la musique, bon, allons-y en rafale. Les trois premières places sont à Kendrick Lamar, Not Like Us, Meet the Grams, Euphoria. En quatrième, KSI, pour une raison qui m'ignore, YouTube, que j'ignore, YouTuber, probablement à cause de ça, qu'on a recherché sa chanson et qui propose des boîtes repas avec un des frères Logan et Mr. Beast qui contiennent de la moisissure, puisque le fromage est mal conservé dans à peu près toutes les boîtes. Houdini d'Eminem, Apt, Rosé et Bruno Mars, Espresso de Sabrina Carpenter. J'aurais gagé que Espresso soit beaucoup plus élevé que ça. Il me semble que c'est dans les chansons qui ont énormément joué sur les radios commerciales. Yes and Ariana Grande, peut-être un peu plus l'année dernière, mais bon. Fast Car, Tracy Chapman. Et Carnival de Kanye West. Beaucoup moins dans le son de CFAQ, dans le son de Cheese, mais voilà, chansons populaires quand il y en a. Dans les personnalités, les noms qui ont été les plus retenus dans toutes catégories confondues, bien évidemment, c'était les Jeux olympiques. Donc, plusieurs athlètes canadiens se retrouvent dans cette liste-là. Notamment André DeGrasse en septième position. Simone Biles, américaine, en troisième position. Summer McIntosh en natation qui est repartie avec plusieurs médailles, d'ailleurs. Et à nouveau, pour les mauvaises raisons, Iman Khelif, la boxeuse algérienne qui s'est retrouvée dans une controverse malgré elle après toutes les controverses qui ont éclaté sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter à cause du harcèlement de l'auteur J.K. Rowling et Elon Musk lui-même qui prétendait qu'Iman Khelif était un homme parce que son visage était trop masculin à leur goût. Donc, il disait que c'était une athlète trans quand c'était évidemment pas le cas. Parmi les musiciens qui ont été les plus recherchés en 2024, pour les bonnes et mauvaises raisons, Usher, parce que notamment il a fait le Super Bowl, est en première position. Kendrick Lamar, parce qu'on est au Canada. Justin Timberlake, parce qu'il est venu en show à Montréal et que Catherine Levac lui textait d'en face parce qu'elle parlait avec sa mère quand Justin Timberlake l'a aperçu. Il était comme essayé d'aller la voir et elle s'est rendue compte trop tard que Justin Timberlake était juste à côté d'elle. Elle est devenue virale sur Internet pour ces raisons-là, mais dans les faits, elle était réellement en train de juste texter sa mère et non pas en train de régler des problèmes avec ses jumeaux. Tate McRae, Sabrina Carpenter, comme je le disais, Ingrid Andress, que j'avoue que j'ai aucune idée c'est qui, Tracy Chapman, Chappell Roan, Linkin Park, qui a maintenant une chanteuse, et Noah Kahan en 10e place. Les personnes, en général, toutes catégories confondues, qui ont été les plus recherchées au Canada, Emma Stone, normalement, donc notamment en 10e position, comme je le disais, Poor Things aide beaucoup, Jill Stein, Robert F. Kennedy, Didi et Tim Walz, donc la politique américaine et les scandales américains trônent dans ce top 5. Griselda Blanco en 5e, J.D. Vance, Joe Biden en 4 et 3e, Kamala Harris en 2e et Kate Middleton trône au sommet des personnalités les plus recherchées. Étrangement, Donald Trump ne serait pas dans le top 10. Pourquoi? La question se pose. Dans les personnes qui sont décédées dans l'année 2024, qui ont été le plus recherchées, notamment autour de leur mort, on retrouve notamment en 9e place James Earl Jones, qui a entre autres prêté sa voix à Mufasa dans le dessin animé du Roi Lion, à Darth Vader dans ses voix les plus notables, même dans les éditions les plus récentes. C'était toujours lui qui était la voix attitrée depuis les années 70. Dame Maggie Smith, actrice britannique, notamment rendue énormément populaire à cause des films Harry Potter, mais qui était également dans Rock'n'None et dans Downton Abbey plus récemment. Donald Sutherland, Habitant de Magog, tout près de Sherbrooke, qui est un acteur canadien, qui s'est fait, pour la plus jeune génération, connaître grâce aux Hunger Games. Général Snow, Président Snow. Plusieurs autres rôles, bien sûr, et qui parlait très bien français, semble-t-il. Il y a des entrevues qui sont ressorties, notamment au Point, à la Radio-Canada, avec Stéphane Bureau, un jeune Stéphane Bureau, encore pertinent, qui interviewait Donald Sutherland en français, début 2000, si je me souviens bien. Donc, c'était dans les archives de Radio-Canada, si je me souviens bien, sur Facebook. Brian Mulroney, ancien premier ministre, qui est décédé cette année. O.J. Simpson, pour les mauvaises raisons, qui a été remis de l'avant avec son décès cette année. Toby Keith, en troisième. Johnny Goudreau, le joueur de hockey qui s'est fait happer, lui et son frère, mortellement, alors qu'ils étaient en vélo, se sont fait percuter par un chauffeur sous, que c'était pas la première fois qu'ils se faisaient arrêter pour alcool au volant. Et les deux frères sont morts la veille du mariage de leur sœur. Histoire terrible, et on apprenait pour bien boucler la boucle du malheur qui s'abattait sur les Goudreau, que la femme de Johnny Goudreau, malheureusement, j'ai pas son nom sous les yeux, apprenait qu'elle était enceinte de leur troisième enfant, avec des enfants de 4 ans et 2 ans. Terrible, terrible histoire du côté américain. Et Liam Payne, le chanteur des One Direction, un des 5 chanteurs des One Direction qui aurait fait une psychose toxique, overdose en Argentine lorsqu'il se produisait en spectacle. Il était comme dans sa semaine de vacances et qui, dans cette paranoïa-là, se serait jeté en bas du troisième étage de son hôtel. Donc, triste fin également pour ce chanteur-là, mais sinon, Johnny Goudreau a été particulièrement marquant également pour toute l'espèce de surenchère de malheur qui s'abattait sur cette famille-là. Triste histoire, et c'est ça, pour un chauffeur qui en était pas à ses premières fois à conduire chaud, qui plus est. On fait une courte pause musicale au retour. On complète les questions qui ont été posées à Google en 2024 et on commence à regarder ce qui s'est passé dans l'actualité québécoise. Vous écoutez le deuxième service de 2024 sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHIZ 94.3. On est de retour au deuxième service de 2024 pour faire le tour de l'actualité de l'année et de parler de ce qui a été le plus recherché sur Google, notamment ce qui a retenu l'attention des Canadiens pour cette année, parce que je le rappelle, malheureusement, le palmarès québécois n'est pas aussi facilement accessible qu'il l'était par les années passées. On pourra poser des questions à Google en 2024. On a demandé comment, how, ou combien, ça dépend de certaines traductions dans ce cas-ci, parce que ça peut varier un tout petit peu les critères de recherche, entre guillemets. Donc, combien y a-t-il de Canadiens sur l'équipe des Panthers de la Floride? On a demandé ça beaucoup, semble-t-il, en 2024 sur Google. Comment faire des lunettes pour regarder l'éclipse solaire? Parce que oui, souvenez-vous, cet été, le gros fun a été de regarder une éclipse solaire, de quand même assez longue pour les gens de Sherbrooke qui ont pu profiter d'un 2 minutes quasiment complet, ou sinon un petit peu, et quelques secondes pour profiter de cette tombée de nuit en plein après-midi soudaine. Plusieurs études qui ont été faites, notamment, on se souviendra, aux Outes Grimbé. On avait un peu observé le comportement des animaux. La plupart s'en foutaient complètement ou sont partis se coucher et sont ressortis quelques secondes après, lorsque l'éclipse était terminée, de « Ah, ben la journée recommence ». Donc, on a voulu étudier le comportement animal face à une éclipse solaire. Comment est-ce que de se promener pieds nus affecte la santé? Les Canadiens se sont posé de drôles questions en 2024. Comment s'enregistrer pour voter aux États-Unis? La réponse, c'est on ne peut pas au Canada. En sixième position, quelle est la grandeur de Barron Trump, le fils de Donald Trump, qui est très, très grand? préoccupations légitimes, mesurait un 6 pieds 7, 6 pieds 8. Vraiment très grand. Barron Trump, c'est peut-être la... Non, c'est un enfant. J'allais faire une blague méchante, mais bon, je ne la ferai pas. Comment regarder les Jeux olympiques au Canada en cinquième position? Combien... à quel point est-ce commun d'avoir une éclipse solaire ou comment... Quelle est la répétition des éclipses solaires que l'on peut voir? La durée. Quelle est la durée d'une éclipse solaire? Quelle grandeur... De quelle grandeur est Simon Biles? Donc, on s'est préoccupé du 6 pieds 7 de Barron. On se préoccupe du 4 pieds 9, 4 pieds 10 de Simone Biles, la gymnaste américaine, qui, évidemment, ben, elle est gymnaste, donc, évidemment, elle n'est pas grande. Règle générale, les gymnastes sont toujours à peu près en dessous de 5 pieds 6. C'est rare, plus grand que ça. Et combien d'élections y a-t-il présentement? La question est légitime puisqu'il y a eu 4 provinces qui ont été appelées aux urnes. Le Manitoba, la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard qui se sont tous rendus aux urnes cette année. Essentiellement, statu quo, sauf au Nouveau-Brunswick et évidemment en Colombie-Britannique, mais ça, ça a été un gouvernement majoritaire par la peau des fesses. Et le Nouveau-Brunswick, qui se sont finalement débarrassés de Blaine Higgs pour donner la chance à Susan Holt comme toute première ministre du Nouveau-Brunswick et première femme première ministre du Nouveau-Brunswick et première ministre francophone depuis 5 ans minimum, depuis la dernière fois que justement le Parti libéral était au pouvoir et que l'ancien chef était lui bilingue comparativement à Blaine Higgs qui haïssait les francophones. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'Iran attaque Israël? Pourquoi ISIS a attaqué Moscou? Pourquoi Nylander ne joue pas? Donc, on est au hockey, j'imagine. Nylander, oui, ça sonne hockey. Je suis en train de dire ça, puis je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas ça? Ouais, c'est ça. Pourquoi William Nylander ne jouait pas ce soir-là? Eh bien, pourquoi la Copa América est en retard? Il y a eu du retard. Pourquoi Israël a attaqué l'ambassade iranienne? Pourquoi Donald Trump a gagné? Question légitime. Pourquoi la LCBO, pourquoi la SAQ de l'Ontario est en grève? Pourquoi Israël attaque le Liban? Pourquoi Drake fait parler de lui? Il y a plusieurs raisons. Et pourquoi je ne peux pas regarder directement une éclipse solaire? Parce que ça abîme les yeux. Facile de même. À la question « what? » À la question « quoi? » On a demandé « c'est quoi CrowdStrike? » pour faire la recherche rapidement, ça semble être une entreprise américaine de cybersécurité. Pourquoi on cherche ça dans le rock? Bonne question. Qu'est-ce que la CTE? On demande ça. Qu'est-ce que la CTE? J'ai Centre de transfert d'entreprise du Québec, mais c'est probablement pas ça. quelle est l'heure du débat présidentiel américain? Qu'est-ce que « demure » mean? Qu'est-ce que « demure » veut dire? C'est une expression à la mode sur les réseaux sociaux. D'être bien, d'être joli. J'ai de la misère à l'expliquer, même moi. Qu'est-ce que le fractionnement de fracking? Donc, probablement que ça avait rapport avec les sables bitumineux. En tout cas, mon premier réflexe serait de me tourner vers les sables bitumineux. Qu'est-ce que la « mpox » la maladie de la variole simienne. Qu'est-ce qu'une éclipse solaire? Allons-y à la grande base de cette énorme question et sujet qui a marqué l'année. Qu'est-ce que le projet 2025, le projet ultra-conservateur de la politique américaine qui veut revenir à un système d'antan et privé beaucoup de droits aux minorités et aux femmes, essentiellement. Donald Trump dit qu'il ne le fera pas, même si projet 2025 est signé de la main de plusieurs collaborateurs et anciens collaborateurs de Donald Trump. À quelle heure a lieu le match entre Jake Paul et Mike Tyson sur Netflix? Pour les gens qui ont tenté de se connecter en direct, il y a eu énormément de problèmes de connexion parce que trop de monde, finalement, ont voulu voir un jeune homme d'à peine presque 30 ans donner une claque à un homme de 57 si ce n'était pas arrangé avec le gars des vues pour que le gars de 57 perde. Et à quelle heure a lieu l'éclipse solaire? Ça dépendait d'où vous étiez. Sur le continent ou dans la province québécoise, carrément. Donc, voilà pour ces questions qui ont été posées à Google en 2024. Et si j'y retourne rapidement pour la CTE, ce serait l'encéphalopathie traumatique chronique ou ETC. L'ETC en français ou la Chronic Traumatic Encéphalopathie, la CTE, qui serait une forme d'affectation cérébrale progressant vers les maladies neurodégénératives, habituellement diagnostiquée post-mortem après une pratique sportive prolongée maillée de nombreuses commotions cérébrales, donc probablement ce qui cause le décès de plusieurs joueurs de football, notamment lorsqu'ils sont plaqués violemment dans le sport. Sinon, un petit article très rapidement qui a été répertorié par Google, qui ont des meilleures sources que moi d'être capable de trouver les trucs québécois là-dedans. Au Québec, on aurait cherché dans l'actualité les aurores boréales, puisqu'il y en a eu quelques-unes au courant de l'été, ou les voies, ou pourquoi y a-t-il les aurores boréales au Québec, surtout au sud du Québec, les feux de forêt à Jasper, bien sûr, l'effondrement du pont à Baltimore, les inondations dans le sud du Québec, que ce soit naturel ou comme celle de Montréal, le tuyau qui explose et qui inonde notamment les bureaux de Télé-Québec et les archives de Télé-Québec, l'ouragan Milton, les Jeux olympiques, l'éclipse, les élections américaines, la Copa América, l'Euro 2024. Donc, le soccer à la cote et bien sûr, les Jeux olympiques ont également fait parler dans les athlètes, dans le palmarès québécois. On ajoute plutôt dans cette liste-là Léon Marchand, celui qui fait de la natation. J'allais dire natationneur, mais ce n'est pas un vrai terme. Donc, celui qui pratique la natation, qui fait de la natation de vitesse, qui a remporté nombreuses médailles d'or. Patrick Lane, du Canadien, se retrouve à la quatrième place du palmarès québécois. Parmi les films au Québec, voilà les séries télévisées québécoises qui ont été recherchées. Occupation double Mexique est en première position. La série Fallout, comme je le disais, sur Amazon Prime. Baby Reindeer, mon petit reine, en troisième place. Sinon, c'est assez similaire. Big Brother est en 9e position. Donc, parmi les peut-être petites différences, et sinon, parmi les jeux vidéo qui ont été notamment recherchés au Québec, Palworld World, l'espèce de parodie violente des Pokémon qui ont des fusils, est en 2e position. Sinon, Star Wars Outlast, pour les mauvaises raisons, se retrouve en 8e position. Donc, voilà pour ce mini palmarès québécois. C'est plus difficile, il faut peut-être faire plus de recherches pour trouver les bonnes réponses québécoises. Voilà, pour une raison que j'ignore, Donald Trump serait dans le top 10, mais littéralement, celui que j'ai sous les yeux place plutôt Kate Middleton en première place, et Griselda Blanco, que j'ai aucune idée, qui est en 5e place, qui serait une trafiquante de drogue colombienne. Pourquoi elle fait parler d'elle au Canada? Je l'ignore. Donc, certains palmarès ajoutent Griselda Blanco, et d'autres palmarès la remplacent par Donald Trump. logiquement, Donald Trump devrait plutôt être là, parce que Griselda Blanco, on peut vite parler d'elle, puisqu'elle est morte. Est-ce qu'elle est morte? Elle est morte en 2012. Fait que pourquoi elle ressort présentement dans le palmarès canadien, qui plus est? Bonne question. Donc, voilà pour ça. Il y a des petites anomalies comme ça dans ce palmarès-là. Ah, il y a une série sur Netflix. Ça doit être à cause de la série Netflix. La Veuve Noire. La grande chef de gang Griselda Blanco, la Veuve Noire. Ça doit être ça. De surprise en surprise, on fait une courte pause et au retour, on parle de l'actualité québécoise de 2024 sur les ondes de CFAQ 88.3 et de CHIZ 94.3. Donc, les événements marquants, ou du moins on passera au travers du calendrier de 2024, des événements marquants ou un petit peu moins de l'actualité de tous les jours. On a débuté le 2 janvier avec le tout premier match de la Ligue professionnelle de hockey féminin qui affrontait Montréal contre Ottawa. À ce moment-là, il n'avait pas de nom d'équipe en débutant l'année 2024. L'année partait fort le 18 janvier lorsque Pierre Poilievre, dans une conférence quelconque, disait de Bruno Marchand et de Valérie Plante d'incompétents lorsqu'il était question de la construction de logements dans leurs villes respectives alors que les bilans des deux villes étaient dans le positif. Donc, Pierre Poilievre faisait de la micro-gestion et s'amusait aux dépens des deux maires qui, de toute façon, Poilievre le sait, ne fera pas de gain à Montréal et à Québec. C'est pris pour acquis de toute façon, parce que dire du mal de Bruno Marchand, c'est coutume à Québec, surtout les radios de Québec. Soupçonné d'agression sexuelle, l'archevêque de Québec, Gérald Cyprien, on reste dans la région de Québec, Gérald Cyprien Lacroix, se retire temporairement de ses fonctions et nie, bien sûr, les allégations portées contre lui. Après s'être fait pogner à demander aux citoyens de payer des 200$ dans les soupers de cocktail pour rencontrer des ministres, le 1er février, François Legault annonçait que la CAQ renonçait au financement populaire et aux dons politiques et il demandait à ce que ses adversaires fassent de même, chose qui a bien sûr été rejetée du revers de la main. Avant de terminer 2024, on était dans les grèves, notamment pour la Fédération autonome de l'enseignement. Il y a une entente qui est ratifiée difficilement, mais elle est entrée en vigueur. En tout cas, on a fait les dernières signatures le 2 février. Puis à la fin de février, les membres du Front commun acceptaient une entente de principe signée avec le gouvernement en décembre à 74,8%. Donc, on rattrapait ce retard-là pendant les fêtes et on signait finalement les papiers en question. Le 5 mars, Juste pour rire déclarait officiellement faillite pour cause de situation financière difficile. Le festival et plusieurs spectacles sont notamment annulés. Des comptes de banque qui ont été mystérieusement vidés sont entre autres la cause de ces... précipitation vers la faillite. Donc, ça en était terminé pour Juste pour rire. La FIC signait le 19 novembre une entente de principe avec le gouvernement. Ça se passait le 19 mars. Les funérailles d'État de l'ancien premier ministre Brian Mulroney avaient lieu à la basilique Notre-Dame de Montréal le 23 mars suivant. L'éclipse solaire avait eu lieu le 8 avril. Elle passe à 15h26 au-dessus de Montréal. Quelques minutes plus tard, c'était Sherbrooke et Lac-Mégantic qui étaient en éclipse solaire totale. Montréal a eu une minute. Sherbrooke et Lac-Mégantic en avaient deux. C'est pas 2 minutes 30. En visite au Québec, le premier ministre français Gabriel Attal livre un discours à l'Assemblée nationale. Il parle entre autres de protection de la langue française et sa politique envers le Québec est la même que celle de ses prédécesseurs depuis 1977. Non-ingérence et non-indifférence, donc la politique du non-non, était répétée le 11 avril avant que Gabriel Attal se fasse mettre dehors plus tard lors des élections françaises. La FIC 61% de ses membres rejetaient l'entente de principe conclue le 19 mars précédent. Donc, un mois plus tard, ce n'était plus... l'entente était déchirée, littéralement. Éric Lefebvre est un des premiers députés de la CAQ à sacrer son camp du navire qui coule, notamment pour annoncer qu'il allait se présenter à la succession d'Alain Reyes pour le Parti conservateur du Canada dans Arthabasca, là où il était député provincial. Il est présentement, pour l'instant, député indépendant, puisqu'il quittait le caucus caquiste, mais il quitterait ses fonctions dès que l'élection fédérale serait déclenchée. Encore dans le but de faire quelque chose de bleu, François Legault annonçait les musées de l'histoire du Québec, le Musée national d'histoire du Québec, le 25 avril. Et ce premier musée-là serait situé au Séminaire de Québec, dans le Vieux-Québec. 92 millions devraient être engloutis dans ce projet-là qui devrait ouvrir dans 2 ans. Il faudra attendre l'automne pour apprendre que c'est l'ancien maire de Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, qui a écrit une chronique dans la presse contre l'humoriste Anas Asuna en disant « Retourne quasiment dans ton pays » lorsque lui-même est né à Montréal. Et devient ainsi conservateur de ce musée de l'histoire québécoise. Et François Legault, bien sûr, en lui demandant « Ça commence où l'histoire du Québec? » a dit que c'était quand on mettait les pieds en Amérique. Donc, désolé les Premières Nations, vous ne serez pas inclus dans ce musée de l'histoire du Québec. Ou en tout cas, ça pourrait être mentionné sur un panneau à l'entrée. Je ne sais pas clair comment que ça va être fait. Donc, après le panier bleu, après les achats bleus, après tous les cossins bleus qui ont tous fermé ou pas fonctionné, les musées bleus. Émilie Lessard-Terrien quitte en fracassant la porte, elle aussi. 29 avril, démissionne, dit être épuisée à cause de certaines dissensions au sein du parti. Et cette même journée, Geneviève Biron, des groupes de médecine privée Biron, est nommée à la tête de Santé Québec lorsqu'elle devra, à ce moment-là, gérer l'entièreté du système de santé québécois, puisque Christian Dubé ne veut pas s'en mêler et veut que ça soit maintenant Santé Québec qui s'en occupe. Toujours dans la création des programmes pour que les ministres aient de moins en moins de tâches, Geneviève Guilbeault déposait le projet de loi 61 pour créer l'agence Mobilité Infra-Québec. Le but serait de planifier et de réaliser des projets de transport collectif dans la province, si ça existe. Voilà, c'était déposé en mai. Le 15, Ottawa officialise la reprise de la propriété du pont de Québec et il s'engage à investir 40 millions par année sur 25 ans pour un total d'un milliard pour assurer la viabilité à long terme de cette infrastructure essentielle et historique, ce qui évidemment va contrecarrer les plans de la CAQ de dire que le pont de Québec est sur le point de tomber, tout comme le pont Pierre-Laporte, donc il faut absolument mettre 10 milliards dans le fleuve pour faire un troisième lien. Le Vatican énonce que le cardinal de Québec, Gérald Cyprien Lacroix, est blanchi de toute accusation d'abus sexuels le 21 mai. L'enquête du Vatican est incomplète, la victime présumée n'ayant pas accepté d'y participer, préférant s'en tenir au processus civil de recours collectif en cours contre le diocèse de Québec, dont 170 victimes alléguées font partie. Mais le Vatican lui fait dire que Cyprien est bien correct. Le 1er juin, c'était les funérailles nationales de Jean-Pierre Ferland qui étaient célébrées au Québec. Autre plan qui ne fait pas l'affaire de François Legault qui dira qu'on devra faire un troisième lien quand même si, après avoir enlevé des mains le projet de tramway de Bruno Marchand pour que Geneviève Guilbeault s'en attribue tout le mérite et garoche ça dans la cour de la Caisse de dépôt et placement pour qu'ils disent qu'ils veulent eux aussi faire un troisième lien, bien, coup de théâtre! La Caisse de dépôt et de placement recommande un plan de mobilité pour la région de Québec de 15 milliards qui inclut la construction d'un tramway, mais qui dit que le troisième lien ne servirait à rien ou à sauver 2 minutes dans le trafic, gros top, donc qui ne recommandait pas l'engloutissement d'argent public dans ce projet qui ne sert à rien. Et évidemment, ben, François Legault s'engage à la construction d'un troisième lien le lendemain parce qu'il avait dit qu'il le ferait et il le fera, même si on vient d'y dire encore une fois qu'il ne fallait pas qu'il le fasse. En juin encore, 21 juin, Denis Coderre annonçait officiellement qu'il allait se lancer à la caisse. Oh, quelle belle ironie de se lancer à la course à la chefferie du Parti libéral et ce sera les débuts de ses déboires avec tout plein de gens et qu'évidemment, le bon vieux Denis Coderre était toujours pas si enterré que ça non plus. On fait une courte pause au retour, la deuxième moitié de 2024, au deuxième service de l'année. Juillet 2024, le 26, Céline chante sur la Tour Eiffel. Prestation qui annonçait le retour officiellement de Céline Dion, qu'elle était maintenant capable de recommencer à chanter avec la sortie de son documentaire aussi sur sa maladie de la personne raide, qui était également mis de l'avant dans les semaines suivantes. La tempête Debbie occasionne des pluies importantes et plusieurs dégâts dans les régions du sud du Québec. Des inondations et des pannes de courant sont à signaler le 9 août. Un bris d'aqueduc la semaine suivante, le 16 août. Voilà, j'en ai parlé au début de l'émission. Tout près du pont Jacques-Cartier à Montréal, d'importantes conséquences dans le quartier. Des inondations, interruptions de courant, circulation d'auto déviée et l'inondation dans les bureaux de Télé-Québec qui venaient de déménager en plus dans leur nouveau bâtiment, direct à côté d'où le tuyau a pété. Septembre, coup de théâtre au Québec. Pierre Fitzgibbon démissionne comme député et quitte la vie politique complètement. En tant que ministre de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, le super ministre super sacre son camp le 4 septembre. Le lendemain, on apprenait que Christine Fréchette devenait la toute nouvelle ministre de l'économie et porte-parole maintenant, plutôt je devrais dire, de l'économie de François Legault. Youri Chassin est le suivant de la liste des députés caquistes démissionnaires qui siégera comme indépendant dans Saint-Jérôme. Le 14 septembre, les capitales de Québec remportent leur troisième championnat consécutif dans la Ligue Frontière. Il s'agit de leur dixième championnat depuis la création de l'équipe en 1999. Ils sont sacrés champions le 14 septembre. Quelques jours plus tard, Pablo Rodriguez, lui, quittait le Parti libéral du Canada pour traverser le pont, comme il le fait dans sa petite mise en scène, pour maintenant revenir au Québec et devient le nouveau candidat vedette devant Denis Coderre pour l'élection du prochain chef du Parti libéral au Québec. 1er octobre, Marois Risky informe qu'elle quittera la vie politique au terme de son mandat. Donc, grâce à elle, il n'y aura pas que des élections partielles au Québec. Elle s'engage à terminer son mandat, ce qui est tout à fait louable puisqu'elle veut, pour vrai, elle se retirer pour des raisons familiales. Incendie criminel dans un immeuble du Vieux-Montréal le 4 octobre, causant la mort de deux ressortissants français, blesse une autre. Ces personnes auraient loué des appartements dans l'immeuble sur la plateforme Airbnb un an plus tard, un an et quelques mois après que des incendies avaient eu lieu également dans le Vieux-Montréal le 16 mars 2023 qui avait causé la mort de 7 personnes et avait blessé 9 autres. L'édifice, en 2024, appartenait évidemment au même propriétaire que celui de l'incendie de 2023. Bernard Drainville dépêche des accompagnateurs du ministère à l'école primaire Bedford dans le quartier montréalais Côte-des-Neiges à la suite de publication d'un rapport faisant état de pratiques pédagogiques disciplinaires en contravention sur la loi sur l'instruction publique le 11 octobre. Gabriel Nadeau révèle que Ruba Gazal, député de Mercier, sera la nouvelle co-porte-parole féminine de Québec solidaire à la mi-novembre. Là, on est le 15 octobre lorsque cette lorsque cette annonce est faite, puisque ben, Ruba avait perdu par une ou deux voix la précédente élection derrière Émilie Lessantérien. Donc, on lui a un peu laissé le champ libre cette fois-ci. Donc, Ruba allait être couronné à la mi-novembre, mais ça aussi, c'est passé dans le beurre. Valérie Plante informe qu'elle ne sollicitera pas de troisième mandat aux élections municipales le 23 octobre suivant. Le pont de Québec devient propriété du gouvernement fédéral le 12 novembre, ce qui fait dire à Yves Duclos que maintenant, ben, on va s'en occuper, nous autres, de ce pont-là, parce que c'est pas la CAQ qui le fait, c'est nous autres qui va le faire. Ce qui a fait en sorte que Geneviève Guilbeault n'était pas de bonne humeur. C'est pas à Yves Duclos de nous dire comment gérer les ponts. Il devrait, parce que Geneviève, elle, c'est pas elle non plus qui va bien gérer les ponts. Arun Boisy commence à semer la controverse le 13 novembre avec des propos sur le racisme qui sévit à l'Assemblée nationale. Il ne s'en excusera jamais. Il a été... sur le fond, il est juste qu'on instrumentalise les nouveaux immigrants de la part de la CAQ et du PQ, mais de dire que l'entièreté de l'Assemblée nationale est raciste, évidemment, ces propos-là n'ont pas passé. Ruba Gazal est finalement élu co-porte-parole cette même fin de semaine, le 16 novembre, mais voilà. Arun Boisy a volé le spotlight. 23 novembre, le Rouge et Or de l'Université Laval remportait sa 12e Coupe Vanier de son histoire à Kingston, en Ontario, contre les Golden Knights de l'Université de Wilfrid Laurier par la marque de 22-17. Santé Québec entre officiellement en fonction le 1er décembre dernier. Au gala Québec Cinéma, Vampire humaniste, cherche suicidaire, consentant, remporte le prix du meilleur film. Théodore Pellerin reçoit le prix d'interprétation masculine pour Solo. Et Ariane Castellanos remporte celui d'interprétation féminine pour Richelieu. Et Monia Chokri, elle repart avec la meilleure réalisation pour Simple comme Sylvain. 12 décembre. Peut-être serait-ce le leg finalement de François Legault. Il l'a trouvé puisqu'il a signé une nouvelle entente avec le gouvernement de Terre-Neuve à Churchill Falls pour annuler la précédente entente de 1969 signée lors des deux provinces où Hydro-Québec ramassait le gros cash et que Terre-Neuve et Labrador se ramassaient avec les miettes. Hydro-Québec devra maintenant payer un peu plus cher pour l'électricité qui est produite, mais en contrepartie, Terre-Neuve se chargera de créer de nouveaux barrages. Et finalement, le 16 décembre, chose qui passera dans le vide, puisque Chrystia Freeland démissionnera également cette même journée, le gouvernement annonce une entente entre la Ville de Québec, la Caisse de dépôt et de placement du Québec Infra et lui-même, le gouvernement, pour la construction d'un tramway de 7,6 milliards de dollars. La construction devrait débuter en 2027 avec une mise en service d'ici 2033. Rapidement, parmi les gens qui sont décédés, in memoriam, qui sont décédés en 2024, on retrouve Pierre Mailloux, psychiatre déchu, animateur controversé et podcaster en dernier. Serge Laprade, ancien chanteur et animateur. Jacques Duval, chroniqueur automobile. Louise Cousineau, la chroniqueuse redoutée de la télévision. Byron Maroney, on l'a dit. Paul Oud, qui avait surpris tout le monde après des complications suite à une petite opération. La chanteuse Emmanuelle, Ginette Fillion, qui est décédée le 3 mars. Le journaliste et homme politique Yves Michaud et Raymond Boulanger, l'ancien trafiquant de drogue, sont tous deux morts le 19 mars. Jacques Lussier, le comédien, est décédé le 14 avril. Jean-Pierre Ferland, le 27. Mélanie Renaud, le cancer, dans son cas, la chanteuse, le 14 mai. C'est drôle, j'écoutais des épisodes de La Fureur sur YouTube, de vieux épisodes de La Fureur, et elle était notamment en vedette pour ses chansons qu'elle venait de sortir à début 2000. L'autrice Caroline Dawson, décédée le 19 mai, ainsi que Claude Villeneuve, biologiste et professeur, la même journée. Éric Canuel, le réalisateur qui est décédé le 15 juin. Benoît Dagenais, le comédien qui est décédé le 27 juin. Jacques Delisle, celui qui avait peut-être ou non, ou par... par aide, avait tué ou pas sa femme. L'ex-juge Delisle était décédé finalement le 10 août, après qu'il était finalement remis en liberté quelques jours auparavant. Le producteur télé Jean-Claude Espérance, le 13 août. L'historien Marcel Tessier, le 26 août. Daniel Pinard, le 2 octobre, sociologue, chroniqueur et animateur télé. Herbie Moreau, qui est mystérieusement décédé le 3 novembre. On n'a pas plus de détails. En tout cas, à ce moment-là, on n'avait pas beaucoup de détails. Lucien Francoeur, le 5 novembre, après plusieurs problèmes d'addiction et tout ça, était finalement décédé le 5 novembre. Dans la controverse, Edgar Fruitier est décédé le 29. Et la femme politique, Monique Vézina, qui avait œuvré, notamment sous justement, Brad Mulroney, elle est décédée le 15 décembre. C'est là-dessus que ça se termine pour la revue de l'année 2024, le deuxième service de 2024, sur les ondes de CFA 88.3 et sur les ondes de Chiz 94.3. On se retrouve en 2025 pour une prochaine édition du deuxième service, le 10 janvier très exactement, où on critiquera vraiment après tout le monde, le bye-bye, le spécial 90 minutes d'Infoman et en direct de l'univers, les trois spéciaux de Noël cette année parce qu'enfin, on a tiré la plug sur la semaine prochaine. On regardera ça en détail le 10 janvier prochain. À l'année prochaine. Salut!